Le 19 mai 1965. Il s'agit au début d'un ancien entretien où Mère disait « Si l'on avait toujours le sentiment que c'est le meilleur qui arrive, on n'aurait pas peur. »
J'ai envie de te poser une question très simple, enfin qui ne nécessite pas de longues réponses. C'est ça. Si l'on avait toujours le sentiment que c'est le meilleur qui arrive en toutes circonstances, on n'aurait pas peur. Est-ce que c'est vraiment le meilleur qui arrive en toutes circonstances?
Le meilleur? C'est le meilleur étant donné l'état du monde. C'est pas un meilleur absolu. C'est le meilleur. Bon. C'est le meilleur pour le. Il y a deux choses, n'est-ce pas? D'une façon totale et absolue, c'est à chaque instant ce qui est le meilleur possible pour le but divin. Du tout. C'est pour le tout le meilleur possible pour le but divin. Et pour celui qui s'est consciemment branché sur la volonté divine, c'est le plus favorable à sa propre réalisation du mythe. Je crois que c'est correct. Pour le tout, c'est toujours à chaque instant. Ce qui est le plus favorable à l'évolution divine. Et pour les éléments consciemment branchés sur le divin, c'est le meilleur pour la perfection de son union. Seulement, il ne faut pas oublier que c'est constamment en changement. Que ce n'est pas un meilleur statique. C'est un meilleur qui n'est plus, qui, s'il était conservé, ne serait pas le meilleur le moment d'après. Et c'est parce que la conscience humaine a toujours la tendance à vouloir conserver statiquement, n'est-ce pas, ce qu'il trouve bon ou ce qu'il considère bon, qu'il s'aperçoit que c'est assez ça.
«
c'est cet effort pour conserver qui fausse le... fausse les choses. Regardez ça. Quand j'ai voulu comprendre la position du Bouddha, qui reprochait à la manifestation son impermanence, et qui, et pour qui, la perfection et la permanence étaient la même chose. Et dans son contact avec l'univers manifesté, il avait constaté un changement perpétuel. Par conséquent, sa conclusion, c'était que le monde manifesté était imparfait, lui disparaît. Et le changement, l'impermanence, n'existe pas dans le non manifesté. Par conséquent, c'était le non manifesté qui était le vrai divin. C'est comme ça que c'est en regardant, en concentrant sur ce point, qu'en effet, sa constatation était correcte. La manifestation est absolument impermanente. C'est une perpétuelle transformation. Mais dans la manifestation, la perfection est d'avoir un mouvement de transformation ou de déroulement identique au mouvement divin, au mouvement essentiel. Tandis que tout ce qui appartient à la création inconsciente ou tamasique, essaye de conserver identique au lieu de durer par la transformation constante. C'était pour cela que certains esprits ont postulé que la création était le résultat d'une erreur. Mais, n'est-ce pas, il y a eu toutes les possibilités, la création parfaite, et puis une faute qui a introduit l'erreur, et la création elle-même qui est un mouvement inférieur qui doit prendre fin puisqu'il a commencé. Et puis alors la conception telle que elle est dans le Veda, suivant ce que Sri Aurobindo nous en a dit, qui était un déroulement ou une découverte progressive et indéfinie. Du tout par lui-même. Naturellement, tout ça, ce sont des traductions humaines. Pour le moment, tant qu'on s'exprime humainement, c'est une traduction humaine. Mais suivant la position première du traducteur humain, c'est-à-dire une position qui admet l'erreur primordiale ou l'accident dans la création ou la volonté consciente suprême depuis le commencement dans un déroulement progressif. Alors les conclusions, n'est-ce pas, les descentes dans l'attitude yogique sont différentes. Il y a toutes les nihilistes, les nirvanistes, n'est-ce pas, les illusionnistes et les nirvanistes. Il y a toutes les religions comme la chrétienne qui admettent l'intervention diabolique, soit sous une forme ou une autre. Et puis il y a le védisme pur et qui est l'éternel déroulement du suprême dans une objectivation progressive. Et suivant les goûts, on est ici, on est là, et puis il y a des nuances. Mais suivant ce que Sri Aurobindo a senti être la vérité la plus totale, c'est suivant cette conception-là qu'on est amené à dire que à chaque minute, c'est le mieux possible pour le déroulement du tout qui se produit. N'est-ce pas? C'est une logique absolue. Et je crois que toutes les contradictions de ça ne peuvent venir que d'une tendance plus ou moins prononcée pour ceci, cela, cela. Tous les esprits qui admettent l'intrusion d'une faute ou d'une erreur et le conflit qui en résulte entre des forces qui tirent vers, en arrière et les forces qui tirent en avant, tout ça naturellement peut contester la possibilité. Et alors, dans ce cas-là, on est obligé de dire, mais celui qui est spirituellement branché sur la suprême volonté ou la suprême vérité, pour lui, c'est nécessairement à chaque instant le mieux pour sa réalisation personnelle qui se trouve. Ça, dans tous les cas, c'est comme ça. Le mieux inconditionné ne peut être admis que par celui qui admet un univers comme déroulement, prise de conscience du suprême par lui-même. À dire vrai, toutes ces choses n'ont aucune importance. Parce que ce qui est, de toute façon, dépasse entièrement et absolument tout ce que la conscience humaine peut en penser. Et ce n'est que lorsque l'on cesse d'être humain que on sait. Mais dès qu'on s'exprime, on redevient humain. Et alors on cesse de savoir. Ça, c'est incontestable. Et à cause de cette incapacité, il y a aussi une sorte de futilité à vouloir absolument réduire le problème à ce que l'entendement humain peut en comprendre. Dans ce cas-là, il est très sage de dire, comme disait Théon, nous sommes ici, nous avons un travail à faire, et ce qu'il faut, c'est de le faire aussi bien que nous pouvons, sans nous préoccuper ni de pourquoi, ni de comment, ni pourquoi le monde est comme il est, ni quand nous serons capables de comprendre, nous comprendrons. Ça, au point de vue pratique, c'est évident. Seulement, chacun prend une position. Et même la position qu'il prend, j'ai l'exemple ici, j'ai un petit échantillonnage de toutes les attitudes. Et je vois très bien les réactions, la même force unique agissant dans cet échantillonnage et produisant naturellement des effets différents. Mais ces effets différents pour la vision profonde sont très superficiels. C'est seulement, il leur plaît de penser ainsi, voilà. Il leur plaît de penser ainsi. Mais à dire vrai, la marche intérieure, le développement intérieur, la vibration essentielle, ça ne l'affecte pas. Là, aspire de tout son cœur au nirvana, et l'autre aspire de toute sa volonté à la manifestation supramentale, et dans tous les deux, le résultat vibratoire est à peu près le même. Et c'est toute une masse de vibrations qui de plus en plus se prépare à recevoir ce qui doit être. Il y a un état essentiellement pragmatique, spirituellement pragmatique, où de toutes les futilités humaines, la plus futile, c'est la métaphysique. C'est tout.
Plus tard, la disciple présente demande à mère la permission d'aller voir un oculiste.
Parce que ça, c'est seulement pour ajuster des verres.
Oui, enfin, examiner aussi.
Examiner mon petit. Elle voit 10 personnes, les 10 personnes diront 10 choses différentes. Ça, c'est la, n'est-ce pas, l'instabilité du diagnostic est une chose qui pour moi est tout à fait certaine. Parce que il n'y a pas deux cas pareils. Il y a des analogies. Et il peut même y avoir des familles de cas, mais il n'y a pas de cas pareils. Par conséquent, dans chacun, il y a des variations. Et à moins que le monsieur ne soit très intuitif, il commence à raisonner. Et alors, il est sûr de se tromper. Ou de dire des vagueries. N'est-ce pas? Comme vous êtes myope ou vous êtes presbyte. Des choses comme ça. Voilà. C'est au point, n'est-ce pas? Il n'y a pas deux cas de cataracte pareil. Il y a des symptômes qui se répètent et qui sont très analogues, d'une analogie très pauvre, il n'y a pas de cas pareil. Et alors, ils ne sont pas, ceux qui sont vraiment sincères, ils vous le disent. Mais il n'y en a pas 1 sur 1000. Ils vous font du... Avec autorité, ils vous annoncent quelque chose qu'ils ne savent pas. Ton frère serait pas content s'il m'entendait?
Si.
Il serait content, n'est-ce pas? Ton frère est un homme sincère. J'ai connu un ou deux docteurs qui étaient sincères et qui m'ont avoué tout à fait nettement que c'est comme ça. Je leur ai dit, au point de vue spirituel, il ne peut pas y avoir deux cas pareils. La nature ne se répète jamais. Il y a des familles, il y a des analogies, il y a des similitudes, mais il n'y a pas de cas pareils. Et par conséquent, vous savez très bien qu'il y a que l'immense complication de la réalité physique quand vous voulez l'étudier sur son plan, n'est-ce pas? Et c'est l'immense complication des possibilités est telle que, à moins que vous n'ayez une perception directe et intime, vous ne pouvez pas savoir ce qui arrivera. Maintenant, comment le corps, c'est un peu quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui se détraque, n'est-ce pas? Pour une raison ou une autre, ça peut être une raison de transformation, ça peut être une raison d'attaque, il y a d'innombrables raisons aussi. Eh bien, mes cellules commencent à dire non, pas docteur, pas docteur, pas docteur. Elles sentent que ça va cristalliser la chose, la durcir, et enlever la plasticité nécessaire pour répondre aux forces profondes. Et alors, ça suivra un cours extérieur, un matériel qui n'en fait plus. Je n'ai pas le temps d'attendre. Je ne dis jamais ça aux gens qui me demandent. Jamais. Je leur dis toujours, allez au docteur et faites ce qu'il vous dit. Parce que, à moins que le corps lui-même, il y a des gens qui ont ça, mais il n'y en a pas beaucoup, très peu. Le corps lui-même dit non, 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 je ne veux pas. Alors il est prêt. Mais si le corps est là de dire, peut-être que le docteur me tirera d'embarras, peut-être qu'il trouvera, allez-y, allez-y, faites-le. Mais c'est quand les cellules commencent à sentir ça comme un danger d'arrêt dans le progrès, de remise en contact avec la vieille histoire qui n'en finit plus. Et si cette histoire vous amuse, nous allons la recommencer. Mais ça ne les amuse plus. Ils n'ont pas envie de la recommencer. Mais ça, c'est autre chose. Si tu avais un docteur gentil, de bonne volonté, très patient, et qui ait une grande expérience de choisir des vers, et qui en a une magnifique collection, si tu vas à lui et qu'il se donne la peine, alors il pourra t'aider. Mais un monsieur qui, du haut de sa prétendue science, va te dire que tu as ceci et cela, et cette déformation, et cette...
Mais tu sais, moi je crois qu'il n'y a aucune déformation.
Non, non.
Rien. C'est un peu plutôt à l'intérieur, comme les canaux n'étaient pas propres, alors la vue ne...
C'est pas très scientifique.
Je ne sais pas.
C'est sinus. Ces sinus sont en mauvais état.
Sinus sont en mauvais état.
Je sens un peu.
J'ai eu beaucoup de rhume, mais
oh, oui. Sans arrêt.
Hein?
Sans arrêt.
C'est depuis 20 ans. Je t'avais dit.
Oui. Mais alors, n'est-ce pas, il y a le monsieur chirurgien qui dit on va opérer. Il y a le monsieur qui n'est pas chirurgien, qui il faudra voudra faire des injections. Non, pour t'aider à lire ou à travailler, tu peux choisir des verres, si, et puis, mon remède à moi, c'est de te mettre très tranquille, avec les coudes sur une table et les yeux dans les paumes. Et puis à ce moment-là, si tu peux, dans ton cœur, avoir une aspiration et que tu dises au Seigneur, Seigneur, prends possession de ton domaine, entre dans ton royaume ici, fais un petit nettoyage. Même en formulant la chose d'une façon tout à fait enfantine. Le Seigneur n'est pas enfantique. Il n'aime pas les cérémonies. Il aime la sincérité, là, comme ça. Quelque chose qui dit, vraiment veut. C'est tout. Lui dire comme ça, viens ici, viens, entre là, viens, regarde avec lui. C'est beaucoup plus fort que tout le reste.